Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. C'est un vrai coup dur pour Anne Hidalgo. La maire de Paris a dû remplacer dans l'urgence son premier adjoint, Bruno Julliard, qui lui reproche entre autres sa méthode de gouvernance. Le projet de loi contre la fraude examiné à l'Assemblée. Avec Marie Viennot, nous nous intéresserons au data mining, l'exploration de données qui doit permettre d'effectuer des contrôles plus ciblés. Aux États-Unis, le candidat conservateur de Donald Trump à la Cour suprême est en grande difficulté. Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle, se dit prêt à s'exprimer devant le Sénat pour défendre son honneur. Et puis l'ancien chef de guerre congolais, Jean-Pierre Bemba, vaut sa peine pour subornation de témoins confirmée par la CPI. Ses problèmes judiciaires l'avaient déjà empêché de se porter candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Je prends acte de la décision personnelle de Bruno Julliard de mettre fin à ses mandats d'élu. Je respecte son choix. Je le remercie pour le travail accompli pendant ces 4 années à nos côtés. C'est par ce tweet sobre qu'Anne Hidalgo a réagi ce matin au départ de son premier adjoint. Et rapidement, elle annonçait son remplacement par Emmanuel Grégoire, jusque-là adjoint au budget. Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir Aurélie.
Pour la maire de Paris, il s'agit d'un revers important. Des critiques, elle en avait déjà entendu beaucoup. Mais venant de son premier adjoint, le coup est encore plus rude.
Effectivement, car Bruno Julliard, avant même d'être premier adjoint d'Anne Hidalgo, c'est un élément fort du PS et de la majorité à la mairie de Paris. Arrivé comme simple adjoint en 2008 grâce à Bertrand Delanoë, quelques temps après avoir quitté la tête de l'UNEF, d'abord à la jeunesse, puis à la culture, jusqu'à donc bras droit de la maire de Paris, avec une réputation qui s'est vérifiée au moment de la campagne municipale de 2014, celle d'être un bourreau de travail et de pouvoir rassembler et motiver des troupes. Bref, l'élément clé au parcours sans faute, ce qui devait le faire monter au plus haut. Julliard était même, aux yeux d'Anne Hidalgo, qui ne le cachait pas, son potentiel successeur naturel. Sauf que l'entente parfaite n'a pas duré. Du côté de certains élus parisiens, il se murmure que des tensions entre les deux, au fur et à mesure que les difficultés et les polémiques se sont succédées, ont commencé à apparaître, qu'il aurait même pu quitter la mairie dès le début de l'année. Sans dire le mot autoritarisme, Julliard explique qu'il n'arrive plus à parler avec Anne Hidalgo, qu'elle décide sans son conseil, à moins que la raison ne soit pas seulement un problème de communication ou d'ego, mais aussi un problème politique. Les municipales de 2020, à l'épreuve du macronisme et de l'éclatement du clivage droite-gauche, la configuration Anne Hidalgo, candidate de la coalition de gauche contre les autres, Bruno Julliard n'y croit pas. C'est à partir d'un projet que chacun aura à se positionner, disait-il ce matin. Sauf que visiblement, le projet ne lui convient pas, comme la personne qui le porte.
Et les portes claquent aussi à La République En Marche. La députée LREM des Hauts-de-Seine, Frédérique Dumas, s'en va pour rejoindre l'UDI. Depuis le début du quinquennat, LREM a vidé de son sens sa promesse de construire avec d'autres sensibilités, explique la députée. Autre promesse non tenue, selon elle, l'exemplarité. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Alors que les députés LREM doivent élire demain leur nouveau président pour succéder à Richard Ferrand, est-ce que ça témoigne de doutes au sein de La République En Marche ?
Oui, il y a quand même des causes personnelles au départ de Frédérique Dumas. Elle se posait des questions depuis plusieurs semaines, raconte une députée qui la connaît bien, depuis notamment le rapport qu'elle avait remis au Premier ministre début juin sur l'avenir de l'audiovisuel public, un rapport dont certaines propositions ont été saluées, mais qui n'a absolument pas été pris en compte par le chef du gouvernement, et Frédéric Dumas en a nourri de sévères frustrations. Mais au-delà de ces griefs personnels, ce départ est effectivement aussi le signe extérieur qu'on se pose des questions au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, que certains députés doute. Et ce qui a vraisemblablement déclenché le départ de Frédéric Dumas, raconte un autre député, c'est la désignation de Richard Ferrand au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. Non pas qu'il n'était pas apprécié, Richard Ferrand, mais il y avait une règle d'airain pour les députés La République En Marche, un principe fondateur en Macronie qu'il croyait intangible, celui de la République exemplaire. C'est en vertu de cette règle-là que François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard avaient tous démissionné de leur ministère respectif en juin 2017, parce qu'il était envisageable qu'ils puissent être interpellés par la justice dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Or, un an plus tard, tout a changé. La menace judiciaire n'a pas empêché Richard Ferrand, qui fait l'objet d'une enquête dans ce qu'on appelle l'affaire des mutuelles de Bretagne, de devenir président de l'Assemblée nationale. On a donc là, avec l'affaire Ferrand et avec l'affaire Benalla, deux sérieux coups de griffe à cette République exemplaire prônée par le président de la République. C'est en quelque sorte la promesse de faire de la politique autrement qu'elle a remise en cause. Et il faut ajouter à cela les doutes et la remise en cause d'une autre règle du macronisme, le « en même temps », avec le départ de Nicolas Hulot, qui semble montrer qu'on ne peut pas en même temps redresser l'économie française et faire une politique en faveur de l'environnement. Un an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron, des doutes donc sérieux apparaissent sur les promesses initiales du président de la République. C'est sans doute une des raisons qui le font baisser dans les enquêtes d'opinion.
Et encore ce couac aujourd'hui au sein de la majorité, l'Élysée a dû faire un démenti cet après-midi. Emmanuel Macron a formellement exclu toute modification des droits de succession sous sa présidence. Vendredi dernier, Christophe Castaner avait laissé entendre le contraire. Le délégué général de La République En Marche disait vouloir une réflexion sans tabou sur la fiscalité des successions pour lutter contre la progression des inégalités de naissance. Après les sénateurs, les députés examinent le projet de loi sur la fraude fiscale. Parmi les mesures phares du texte, il y a la création d'une police fiscale, la sanction des intermédiaires, également la publication du nom des fraudeurs dans les cas les plus graves. Ce projet de loi veut aussi accroître les moyens consacrés à l'exploration de données ou data mining pour mieux cibler les contrôles. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
En quoi le data mining peut-il favoriser la traque des fraudeurs ?
Eh bien, deux chiffres pour vous expliquer cela. Il y a environ 3 millions d'entreprises en France et 50 000 contrôles fiscaux par an. C'est peu, mais ce sont des contrôles ciblés. Les agents de contrôle utilisent déjà des outils qui permettent de détecter des anomalies en croisant des données. Par exemple, un chiffre d'affaires qui baisse et une masse salariale qui n'évolue pas sur plusieurs années. Mais ces recherches sont limitées actuellement à deux critères, quand les algorithmes, eux, peuvent en traiter beaucoup plus, explique Philippe Schall, chef de la mission requête et valorisation au ministère des Finances, qui pilote ce dossier data mining.
Nous, c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille. On a des dizaines d'indicateurs, puisque chaque entreprise est caractérisée par toutes les données de sa liasse fiscale, mais aussi toutes les données de son dirigeant, toutes les données. Donc on demande à un indicateur, un algorithme, d'analyser les contrôles fiscaux passés, sur 10 ans, ça fait 500 000. On lui demande de regarder, dans le cas de la minoration de recettes, quels sont les indicateurs qui vont différencier les fraudeurs en termes de minoration de recettes par rapport à ceux qui ne font pas la minoration de recettes. Et ensuite, on va regarder les populations qui correspondent à ce portrait robot. Normalement, on devrait améliorer les résultats. C'est-à-dire que les contrôles seront mieux ciblés et les vérificateurs qui vont faire des vérifications, ils n'iront pas à tort dans une entreprise où finalement il n'y a rien.
Donc l'idée n'est pas de faire plus de contrôles, mais que le ciblage étant meilleur, le temps passé à contrôler à tort soit réduit. L'extraction de données est utilisée de façon expérimentale depuis 4 ans déjà, et déclenche actuellement 4000 contrôles, soit 9% du total. L'objectif, c'est qu'en 2021, on passe à 50%. La CNIL a déjà donné un avis positif sur l'utilisation des algorithmes pour définir des profils de fraudeurs. Reste ensuite quelques problèmes techniques classiques de ces questions d'extraction de données, notamment la non-standardisation du format des fichiers, PDF pour certains, Excel, email selon les sources, témoigne Antoine de Braquilange, qui est responsable d'une société privée qui travaille justement déjà avec le Trésor américain sur ces techniques de data mining appliquées à la lutte contre la fraude fiscale.
Le temps passé par un analyste, un enquêteur, à reformater tout ça, prend le dessus par rapport à un temps où il met de l'intelligence. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on travaille. Et un deuxième point, c'est l'existence de nombreux projets, ce qui est déjà en soi une bonne chose, qui visent à définir un certain nombre de règles algorithmiques qui nous montrent qu'à posteriori, on aurait pu identifier la fraude. Ces projets-là sont utiles parce que parfois, ils identifient des nouvelles règles dont on ne suspectait pas, mais ils sont détachés de ce problème fondamental de l'intégration de données et ils sont aussi éloignés de l'expertise métier. Donc on peut avoir des règles qui produisent beaucoup de bruit, ce qu'on appelle des faux positifs, et voilà, qui prend beaucoup de temps des analystes et les éloigne des vrais problèmes.
Et le faux positif, c'est-à-dire le mauvais ciblage de l'algorithme, c'est ce que craignent aussi les inspecteurs chargés du contrôle. Vincent Drezet du syndicat national solidaire Finances Publiques.
Je vais donner un exemple très concret. Lorsqu'on vérifie par exemple une agence de voyage, l'origine de la TVA, elle est spécifique. Il est ce qu'on appelle la TVA à la marge. Donc on peut avoir dans les traitements informatiques une anomalie qui en réalité s'explique, donc pas la peine d'envoyer ça en contrôle fiscal. Donc il faut un traitement humain et c'est cette garantie qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est ce qu'on regrette.
Alors les agents de contrôle auront-ils le temps d'analyser les ciblages transmis par les algorithmes ou devront-ils les exécuter sans sourciller ? Bien, c'est l'inquiétude qui remonte du terrain, inquiétude renforcée par la baisse régulière des effectifs, car oui, en dépit des discours transpolitiques sur la fraude fiscale, ce fléau, le nombre d'agents et de vérificateurs est passé de 13 000 en 2010 à 10 000 en 2015. Et depuis, ce chiffre ni ne baisse ni n'augmente.
Marie Viennot, et le projet de loi sur la fraude fiscale devrait être voté d'ici mercredi. Le nouveau patron d'Air France KLM a pris ses fonctions aujourd'hui. Le Canadien Ben Smith arrive dans un contexte tumultueux. On se souvient de la démission de Jean-Marc Janaillac il y a 4 mois, après le rejet par le personnel de son projet d'accord salarial. Dès son arrivée aujourd'hui, Ben Smith s'est adressé aux collaborateurs du groupe et il leur a promis d'investir 50% de sa rémunération fixe en titres du groupe, un geste destiné à restaurer la confiance à Annabelle Grelier.
Ben Smith est canadien, jeune et communicant. Et c'est par une vidéo que le nouveau patron d'Air France s'est adressé au personnel. Une vidéo dans laquelle il annonce en effet qu'il a décidé d'investir la moitié de sa rémunération fixe dans le capital de l'entreprise. La fameuse rémunération qui avait fait polémique au mois d'août, grimpant à 900 000 euros assortie d'une part variable et d'une rémunération à long terme pour un total de 4 250 000 euros par an. À la manière d'un joueur de poker, Ben Smith met donc 450 000 euros sur la table et mise sur Air France KLM. Un geste qui pour le moment n'a pas été commenté par les syndicats mais a d'ores et déjà été apprécié par les investisseurs. Le titre en début d'après-midi avait pris 1,30%. Dans la vidéo, Ben Smith assure qu'il n'arrive pas avec une stratégie qu'il compte imposer mais qu'il tient à gagner la confiance et le respect des salariés. On le dit homme de dialogue et c'est plutôt un point fort car chez Air France, Ben Smith ne pourra rien changer sans passer par des accords avec le syndicat national des pilotes de ligne. Une autre histoire que celle d'Air Canada où il a pu signer des accords à la baisse face à des syndicats sans droit de grève. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, assure qu'Air France KLM s'est dotée d'un des meilleurs professionnels au monde. En tout cas, c'est la première fois qu'un patron d'Air France n'est pas issu de la haute administration française.
Annabelle Grelier. Une mise en examen de plus pour Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, est une nouvelle fois soupçonné dans le cadre de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Claude Guéant avait déjà été mis en examen dans ce dossier. Cette fois, c'est pour financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et corruption passive.
Effectivement, jusqu'ici, l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy était uniquement mis en cause pour un virement suspect de 500 000 euros sur son compte. Virement qu'il avait justifié, sans convaincre les enquêteurs, par la vente de deux tableaux flamands. Désormais, les magistrats soupçonnent un lien entre un possible financement libyen de la campagne électorale et la circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy. La police anticorruption a notamment souligné l'usage immodéré d'espèces par Claude Guéant. Ainsi, entre 2003 et 2012, soit presque 10 ans, il n'a retiré que 800 euros de ses comptes. Au cours de son interrogatoire, qui a été ponctué par une cinquantaine de questions, Claude Guéant a fait valoir son droit au silence. Son avocat, maître Bouchet-Zelgosi, annonce qu'il va former un recours contre ces mises en examen.
Si moi, demain, je vous mets en examen pour une infraction impossible, qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas et que quoi que vous disiez, on décide de vous mettre en examen, c'est normal qu'il y ait une voie de recours qui soit formée pour que des juges supérieurs puissent examiner si c'est possible ou pas. Et le législateur a prévu dans ces hypothèses-là notamment un droit essentiel pour tout justiciable, c'est le droit au silence. Le droit au silence, c'est pas le fait qu'on ne veuille pas répondre à des questions qui vous gênent. Claude Guéant a répondu depuis 5 ans à beaucoup de questions dans ce dossier-là. C'est simplement attendre que la justice examine s'il est possible d'envisager des mises en examen aussi infamantes, aussi graves que celles qui ont été prononcées contre lui, alors qu'encore une fois, les éléments juridiques font défaut.
Ces nouveaux soupçons contre Claude Guéant interviennent après les mises en examen dans ce dossier de Nicolas Sarkozy en mars pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale. Puis d'Éric Woerth en mai pour complicité de financement en tant que trésorier à l'époque de la campagne.
Antoine Maret. Jean-Pierre Bemba doit décidément maudire la CPI. Lui qui faisait figure de favori à l'élection présidentielle en RDC a été exclu de la course à la présidence du fait de sa condamnation par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Et aujourd'hui, la CPI confirme la peine infligée en première instance, soit 12 mois d'emprisonnement. Pierre Benazet, cette condamnation met encore un peu plus à mal les ambitions politiques de l'ancien chef de guerre congolais.
Oui, effectivement, c'est la confirmation sans surprise, si vous voulez, de cette condamnation par la Cour pénale internationale qui barre la route de Jean-Pierre Bemba à la fonction suprême. À Kinshasa, la Cour constitutionnelle congolaise a en effet décidé que cette condamnation invalidait sa candidature à la présidence de la République. Pourtant, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo aurait pu croire que l'horizon politique était dégagé puisqu'il avait été acquitté en juin et que la condamnation en première instance pour crime de guerre et crime contre l'humanité avait été annulée. révélée, celle qui pesait contre lui dans le cadre de son procès principal. En outre, le calendrier pouvait aussi lui sembler favorable, puisque cet acquittement tombait 6 mois avant l'élection présidentielle, une élection organisée justement en décembre prochain, après avoir été maintes fois repoussée par le président sortant Joseph Kabila. Mais c'était sans compter ce procès annexe qui a vu la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour avoir suborné 14 témoins lors du procès principal. Jean-Pierre Bemba dispose de 3 mois pour verser à la CPI les 300 000 euros infligés ce lundi. Une fois que ceci sera fait, ses démêlés avec la cour de l'opposant congolais seront définitivement terminés, puisque la cour a estimé aujourd'hui que la détention préventive le dispensait de toute détention supplémentaire. Ça faisait 10 ans que les déboires judiciaires de Jean-Pierre Bemba avaient débuté. Il avait été inquiété pour les exactions commises par son mouvement, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, en Centrafrique en 2002 et 2003.
Merci Pierre Benazet. Aux États-Unis, le candidat soutenu par Donald Trump pour devenir juge à la Cour suprême est dans la tourmente. Le juge Brett Kavanaugh, dont la nomination doit être validée par le Sénat américain en fin de semaine, est accusé par une femme d'agression sexuelle alors qu'ils étaient adolescents. Les faits présumés remontent au début des années 80, mais ces accusations pourraient retarder, voire compromettre, la nomination de ce juge conservateur. C'est ce que nous explique Grégory Phillips depuis Washington.
Christine Blasey Ford a raconté au Washington Post ce jour de 1982 où, selon elle, dans une soirée d'adolescents, le jeune Brett Kavanaugh, 17 ans à l'époque, aurait tenté de la déshabiller et de la violer avant qu'elle ne parvienne à prendre la fuite. Les faits présumés sont anciens, mais cette professeure de psychologie de l'université de Palo Alto en Californie dit qu'elle est prête à témoigner devant le Sénat. Je pense que son histoire doit être entendue et examinée, disait ce matin son avocate Debra Katz sur la chaîne ABC. Jusqu'ici, le juge Kavanaugh refuse de reconnaître qu'il connaît cette femme et même qu'il est allé au lycée avec elle, mais de nombreux témoignages expliquent qu'à l'époque, dans cette école, il y avait une culture de soirée très arrosée, de comportements inappropriés, et Kavanaugh faisait partie de ce groupe de jeunes gens. Dans un communiqué, le magistrat explique qu'il est prêt à défendre son intégrité devant les sénateurs pour réfuter ces accusations. Et à la Maison-Blanche, la conseillère du président Kellyanne Conway disait ceci sur Fox News ce matin. Eh bien, cette femme ne doit être ni insultée, ni ignorée, il faut qu'elle soit entendue sous serment, et le juge Kavanaugh aussi, à propos de ces accusations. Le comité judiciaire du Sénat pourrait retarder son vote prévu jeudi. Vote extrêmement important, car le juge Kavanaugh est un conservateur dont la nomination, si elle a lieu, pourrait faire pencher l'équilibre fragile de la plus haute institution judiciaire du pays.
Grégory Phillips à Washington. Un nouveau sommet intercoréen est organisé demain et cette fois il aura lieu à Pyongyang. Depuis son sommet avec Donald Trump en juin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé son engagement pour une dénucléarisation complète de la péninsule. Mais les discussions avec les États-Unis s'avèrent plus difficiles que prévu au point que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annulé sa visite en Corée du Nord prévue le mois dernier. Les deux Corées veulent tout de même avancer. En signe de bonne volonté, elles ont ouvert un bureau de liaison commun situé du côté nord de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées et les deux dirigeants, Moon Jae-in et Kim Jong-un, se retrouvent donc demain. Un sommet qui ravive les espoirs des dizaines de milliers de familles séparées par la frontière, des familles qui attendent désespérément l'organisation de nouvelles sessions de réunion comme celles qui ont eu lieu fin août. Frédéric Ojardias a à l'occasion recueilli le témoignage d'un Sud-Coréen qui a pu revoir son frère cet été.
Kim Kwang-ho, 81 ans, est né en Corée du Nord. Pendant la guerre, il s'enfuit au sud, laissant derrière lui son petit frère de 11 ans. Après 68 ans sans aucune nouvelle, il a enfin été autorisé à le rencontrer. C'était fin août au Nord.
La première fois que nous nous sommes revus, je n'ai pas cru que c'était mon frère. Après 68 ans de séparation, je n'avais aucun souvenir de son visage et je ne l'ai pas reconnu. Je lui ai donc posé plusieurs questions sur notre enfance pour vérifier. J'ai ainsi pu être sûr que c'était bien lui.
Kim Kwang-ho avait préparé 2 valises de cadeaux que son frère a d'abord refusées. Il avait peur d'être dans le collimateur des agents nord-coréens qui surveillent les rencontres de près. C'est peut-être cette surveillance qui pousse certains nord-coréens en pleine retrouvaille à se mettre soudainement à réciter la propagande officielle et à faire l'apologie de leurs dirigeants.
Écoutez, ces mots de propagande me mettaient mal à l'aise. Les Nord-Coréens ont subi un lavage de cerveau et parlent beaucoup d'idéologie. Mais je les comprends. C'est le seul moyen de réussir à survivre dans cette société. Cela ne me posait donc pas de problème.
Les réunions n'ont duré que 3 jours et la Corée du Nord interdit ensuite aux familles de maintenir tout contact par courrier ou par téléphone.
J'ai répété plusieurs fois à mon frère, de nos jours, les gens vivent jusqu'à 100 ans. Alors vivons 10 ans de plus pour avoir une chance de nous revoir. À sa femme qui l'accompagnait, j'ai bien insisté. Ne le laissez pas boire d'alcool. Ne le laissez pas fumer. Évitez tout ce qui est mauvais pour lui.
57 000 Sud-Coréens sont candidats à ces programmes de retrouvailles. La majorité a plus de 80 ans. Il y a donc urgence. Mais en dépit du sommet demain à Pyongyang entre les deux dirigeants coréens, aucun accord pour une nouvelle rencontre n'a encore été trouvé.
Frédéric Ojardias, correspondant de RFI et France Culture à Séoul. L'antenne de Radio France Internationale est perturbée depuis ce matin. Les correspondants et pigistes de RFI sont en grève, notamment pour obtenir une meilleure protection sociale, car à l'étranger, ils ne bénéficient plus de la sécurité sociale française. La direction promet une réunion dans la semaine pour présenter ses propositions. Demain mardi, le temps restera généralement bien ensoleillé, mais le ciel sera plus nuageux au nord et Météo France prévoit des orages du centre au nord-est. Les températures resteront chaudes, 10 à 21 degrés le matin, de 20 à 30 l'après-midi, jusqu'à 32 dans l'Est. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.